chacun et chacune. Vous savez que les chrétiens, tout comme les juifs, célèbrent la Pentecôte 50 jours après Pâques. Parfois des moments différents, parfois ça colle avec les dates, mais 50 jours après Pâques. Et finalement, ce que ce mot de Pentecôte signifie, Pentecôté, après qu'il faut dire la même chose en allemand, Pentecosté, qui dure 50-51. Pentecosté est là le 51 jour. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples. Ils étaient environ 120 dans cette chambre haute à Jérusalem. Et c'est là que s'est manifestée pour la toute première fois la venue du Saint-Esprit. Il a été répandu comme un vent brillant. Et il s'est manifesté à travers de l'expression, de paroles, de langues différentes. Et chacun en visite à Jérusalem à cette époque-là a pu comprendre de quoi il s'agissait. C'est un tout mélange à la gloire du Seigneur. Alors évidemment, en chaque temps de Pentecôte, on réfléchit en tant que pentecôtiste, c'est quoi être pentecôtiste? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que ça signifie pour nous aussi, puisque on a une responsabilité collective dans notre témoignage à rendre à tout le monde, présent tout le monde, mais aussi une parole à donner, une parole d'espérance pour un monde qui en a tant besoin, je crois. Maintenant, encore le monde est frappé par un attentat, et aux quatre coins du monde, il y a des circonstances douloureuses, difficiles à vivre. Et l'Église se trouve au milieu de troubles, de difficultés. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que l'Église est poussée dans ce retranchement pour apporter une parole forte, une parole de témoignage, une parole d'espérance pour un monde qui en a vraiment besoin. Je ne sais pas comment vous sentez les choses, mais je crois que c'est vraiment le rôle de l'Église, la mission de l'Église, que d'être plus que jamais témoin de Jésus-Christ, le Prince de la paix, le Seigneur, la vérité, la vie, il est notre espérance. Alors, la Pentecôte inaugure justement ce temps de l'Église. Sa venue avait été annoncée, acte chapitre 1, verset 8. Prends simplement le texte, et je lui dis ce que Jésus lui-même avait dit aux disciples: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, non seulement il nous avait annoncé, il avait promis, mais des sites auparavant, au travers de la prophète telle que Jean, chapitre 3, il nous a dit cela, et puis, quand il prend la parole ce jour de Pentecôte, rappelle que ce n'est pas un accident, mais que Dieu, depuis trop longtemps, avait programmé, avait prévu ce plan d'action pour montrer au monde qu'il était encore là, qu'il se souciait du monde et qu'il ne voulait pas le laisser souverain. Voilà ce qu'il dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors évidemment, cela rappelle aussi notre rôle de prophète. Oui, de prophète. Un prophète est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Le rôle prophétique, on va dire, de l'Église, c'est qu'il parle de la part de Dieu de manière générale, mais aussi au travers des dons spirituels, dans l'assemblée, dans les rencontres, dans les réunions, et peut-être aussi dans des entretiens plus particuliers, où on leur parle et nous donne de pouvoir nous exprimer de sa part vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une ambiance. Il n'est pas une atmosphère. Il n'est pas une énergie. Il n'est pas une chose. Il est une personne, la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. On peut l'attester. On peut lui résister, la Bible dit qu'on attriste par le Saint-Esprit. Si vous entendez sa voix, non, si ce n'est pas votre cœur, vous peut aussi s'y soumettre, on peut lui obéir, et on peut vraiment avancer dans notre vie, mais pas obligé de vivre une vie chrétienne par ses propres forces. De l'inviter, l'accueillir dans notre vie, et cela changera tout. L'Ancien Testament était le roi. Le Nouveau Testament, le mât. On a en français le mot pneumatique. Le souffle, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Le souffle. Et nous, on n'a pas compte qu'il y a un souffle puissant, même à nous rencontrer, pour qu'on sache bien que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste ce jour-là. Le Saint-Esprit est l'Esprit éternel de Dieu, n'est pas un accessoire, n'est pas une option. Je crois que chacun d'entre nous, si nous sommes suffisamment combattés et seuls, nous réalisons que nous ne pouvons pas, par nos propres efforts, dans nos propres forces, vivre une vie chrétienne au quotidien. Nous avons besoin d'être remplis de sa vie, nous avons besoin d'être équipés en vue de relever les défis qui sont les nôtres. Je veux dire que Dieu suit l'Esprit qu'il a placé en nous. Le Saint-Esprit, l'être le plus sensible qui soit. Le Père nous donne l'Esprit comme un cadeau, ce n'est pas une récompense, c'est un cadeau. Et les dons spirituels sont des dons de grâce, des cadeaux que Dieu nous fait. Si nous pouvions être assez bons pour mériter le Saint-Esprit, nous n'aurions pas besoin de lui. C'est ce que dit Reinhard Bonnke, un évangéliste très connu, qui a abondamment parlé du Saint-Esprit et vécu des choses assez fortes, notamment dans le domaine de l'évangélisation, avec énormément de guérison dans son ministère. Puisqu'on parle de ministère, nous avons la question qui se fait parler du ministère du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le plus grand de tous les missionnaires. Il est missionné. Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et dans un autre passage, c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit. Et donc ça explique ça. Il vous est avantageux que je m'en aille, dit Jésus, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai. Il est l'envoyé de Jésus, l'envoyé du Père. Missionné. C'est un missionné. Être pentecôtiste. Aujourd'hui, c'est être animé de l'esprit missionnaire. Animé de l'esprit missionnaire est qu'il faut avoir envoyé pour accomplir une mission. Donc, vous avez bien vu, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je veux dire aussi, mes missionnaires, mes envoyés. Le Saint-Esprit nous est donné, non pas pour notre bien-être personnel, même si c'est agréable d'être rempli du Saint-Esprit, même s'il y a des conséquences positives, pour nous, personnellement, l'inquiétude du bien-être, c'est incontestable, mais il nous est donné en vue d'être des témoins. Il ne nous est pas donné comme un bien de consommation personnelle, mais en vue d'être utile. L'Église en son ensemble est destinée à être utile dans ce monde. Sauvez-nous. Sauver. Voilà. Sauver pour servir. Le Saint-Esprit est un expert évangéliste. L'évangéliste, c'est la bonne nouvelle. Et il vient pour annoncer une bonne nouvelle. Jean 15, verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il nous amène à reconnaître qui nous sommes. Et parfois, à créer une gêne intérieure. Pourtant, on sent très bien le déclin qu'il y a entre Dieu et nous. On se sent mal à l'aise. Et ce mal à l'aise qu'il y a, c'est ce que la Bible appelle une conviction de péché. On sent bien qu'on est pas en compte. On sent bien qu'on est loin du Seigneur. On sent bien qu'on est séparé de lui. Alors, Dieu ne nous laisse pas là, mais il fera tout pour nous amener dans la proximité de Dieu. Nous montrer que Jésus le chemin, que par son œuvre de la croix, il ne nous a pas donné, par le sang qui a été répandu, il nous pardonne, et vraiment, c'est l'accessible. C'est ce qu'il fait. Son objectif, la proximité de Dieu, pardon, il est obligé de montrer qu'il est souverainement manifestement assis cette conviction de péché, le fait que nous sommes mal à l'aise devant Dieu, mal à l'aise en sa présence, montre que nous ne sommes pas encore pardonnés, et c'est là qu'il montre l'amour de Jésus-Christ pour nous pardonner. L'Esprit nous amène à la repentance, puis à réaliser le pardon de nos péchés. Jean 16, verset 4, verset 14, pardon. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne nous parle pas de lui-même. D'ailleurs, il n'a même pas de nom propre. C'est le Saint-Esprit. Il parle de Jésus. Il aime Jésus. Acte chapitre 9, verset 31, l'Église était en plein dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, ses disciples marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Œuvre d'évangélisation qui a pris les hommes et les femmes à Dieu et qui ensuite les introduit dans l'Église, et c'est de ce fait que l'Église grandit et se multiplie. Le Saint-Esprit est aussi le pasteur par excellence. Il nous conduit comme un berger. Je sais que l'image de berger aujourd'hui est un petit peu en décalage avec un trait moderne, mais rappelle quand même le travail du berger. Rassemblant le troupeau, guidant le troupeau, Jean 16, 13 dira quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le rôle du pasteur, c'est un rôle de conducteur, il conduit, il accompagne les chrétiens dans leur cheminement, il montre la direction, il nourrit, il édifie, il avertit, il exhorte, parfois il reprend, il corrige, mais il encourage, il fortifie, il consomme. Le Saint-Esprit. D'ailleurs, on l'appelle le consolateur. Le consolateur. En grec, il y a un mot qui traduit cela, c'est le paraclete ou paracletos. C'est à l'origine l'ordre des avocats. C'est celui qui apportait des oranges quand on était en prison, mais c'est aussi celui qui prenait la défense de quelqu'un qui ne savait pas se défendre. Le paracletos venait prendre la défense. Mais il s'occupait en même temps de la famille. Il rassurait, s'occupait de faire des démarches de toutes sortes, le paraclétos. Et dans ce sens-là, le paraclétos, le paraclétos, Saint-Esprit est notre défenseur. Il nous conduit, il nous accompagne dans notre vie personnelle. Mais le Saint-Esprit est aussi hautement qualifié, c'est un enseignant. La profession. Le consolateur, l'expression, en 14:26, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera de la parole de Dieu, toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, qui mieux que le Saint-Esprit est en mesure de pouvoir nous enseigner? C'est lui qui a inspiré toute la Bible, et c'est lui qui peut nous en donner l'explication et nous conduire dans les textes et nous enseigner lorsque nous sommes sensibles. Lorsque nous le voulons bien, il nous enseigne pour notre progrès spirituel. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et c'est ce que rappelle aussi l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il dit à laquelle il y avait beaucoup de désirs. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et de rappeler ce que son évidence spirituelle et de quelle manière il veut que la vie de l'Esprit se manifeste dans l'Église de Corinth. Il nous inspire aussi dans la prière, peut-être, en fait, et réalité, tous les ensembles, à lui tout seul, tous les différents ministères qui sont cités dans Ephésiens au chapitre 4. Apôtres, évangélistes, pasteurs, enseignants, et puis prophètes. Le Saint-Esprit est un prophète. Il nous inspire. Il nous inspire dans la prière. Prenez par exemple, au chapitre 8, il nous dira que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire des soupirs qui ne peuvent être traduits, exprimés. C'est lui qui nous fait. Il nous assiste, il nous inspire, il nous parle de la parole. Maintenant, sur le baptême de l'Esprit également, et tout tous les pentecôtistes, tous les charismatiques vous diront que le baptême du Saint-Esprit est une expérience précise que l'on fait avec Dieu, qui est différente de la conversion, mais qui peut avoir lieu le même jour que la conversion, mais moi j'ai une révélation, ce sont des termes théologiques dans lesquels la Bible nous introduit, mais qui sont surtout des expériences, en fait, expériences en relation avec notre contact, notre communion avec le Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit peut être accordé en même temps, mais il est une expérience vraiment distincte. Le chrétien est environné, immergé, plongé dans le Saint-Esprit. La lettre aux Éphésiens, chapitre 5, va jusqu'à dire que nous sommes comme imbibés. C'est l'expression qui est utilisée par l'apôtre Paul. Imbibés comme une éponge, saturés du Saint-Esprit. Et dans son livre, le Saint-Esprit, est venu au début des années 70. Énormément de commentateurs bibliques se sont penchés, parce qu'il y a eu, bien sûr, en 1930, on va revenir tout à l'heure, mais aussi dans les années 70, un réveil dans les milieux traditionnels, protestants, même catholiques, il y a eu des réveils dans les années 70. Et le commentateur Denis Bennett, pasteur qui était militant aussi évidemment charismatique, pour ces années-là, écrit ceci: le Saint-Esprit vient vivre en vous lorsque nous recevons Jésus-Christ. C'est alors que nous naissons de l'Esprit. Dans le baptême de l'Esprit, le Saint-Esprit se déverse hors de nous, c'est une explication, à la manière d'un article, ou plus qu'un article, l'écrit de David dans le psaume 23, où il dit: tu m'enduis de ma tête et ma coupe déborde. C'est une expression d'un débordement intérieur qui se traduit extérieurement par ce phénomène du parler en langue. Jésus, parlant de ça, dira dans Jean 7, des fleuves de vie jouiront de votre vie, que la vie est des fleuves de vie. C'est-à-dire qu'on rappelle quelque part comme un bouillonnement intérieur. C'est dans l'abondance de quelque la bouche parle. Et on se rend bien qu'au bout d'un moment, le journaliste John Perry, qui a écrit des articles et même un livre à ce moment-là, à cette époque des années 70, un livre qui s'appelle Il parle dans d'autres langues, écrit ceci: du fond de moi-même, d'une profondeur que j'ignorais que la voix est capable de me dire, jaillit un torrent de son jugement. Je n'avais nullement sentiment que la situation échappait à mon contrôle. Jamais je ne m'étais senti plus réellement maître de moi. Voilà quelques expressions d'hommes qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit et qui en parlent dans des ouvrages que je peux vous recommander. Alors, l'histoire de l'Église a connu des périodes où le Saint-Esprit a été des périodes sombres. Le don spirituel du miracle n'était plus que de lointains souvenirs. Et il y a eu, heureusement, des périodes d'éclaircissement, d'éclairage de la part de Dieu. Vous avez par exemple toute cette période sous Louis XIV, qu'on appelle le roi de Soleil, une période dramatique pour les chrétiens huguenots, notamment dans la région des Cévennes. Dans une période de persécution des Huguenots, il existe aussi des ouvrages, et je vous les recommande, qui parlent d'expérience à cette époque-là, nous sommes au XVIIe siècle. Donc, par exemple, cette période présente, vous aviez des bébés qui ne savaient pas encore parler, qui se dressaient dans leur berceau pour avertir de dangers immédiats en étudiant et en prophétisant. Ceux qui étaient rassemblés de partir de cet endroit. Ça existe, c'est incroyable. Vous avez des chrétiens à cette époque-là, dans les civils, qui prophétisaient parfaitement en français alors qu'ils ne parlaient qu'un langage, un patron de cette époque-là, et ils prophétisaient de manière parfaite en français. petit peu plus près de nous, nous sommes à la fin du 19e siècle, 1870. Et après, on a une femme qui s'appelle Agnès Osman, connue pour être la première personne à avoir parlé en langue en 1901. Alors qu'elle est étudiante dans une école publique, l'école publique de Charles Parham, qui est connue aussi pour être un pionnier du concours. Elle est reconnue évangéliste par les Assemblées de Dieu des USA en 1917. À cette époque-là, on a reconnu un certain nombre de femmes qui avaient reçu vraiment des ministères d'évangélistes pour annoncer l'Évangile et qui avaient été aussi utilisées puissamment par Dieu pour accomplir toutes sortes de miracles. Cette femme en faisait partie. Elle a appelé des églises en milieu urbain et elle a annoncé, elle a commencé par. On commence tout simplement par le désir de vivre ce que les premiers chrétiens ont vécu. C'est-à-dire que dans cette école biblique, à ce moment-là, on se réunissait pour étudier la Bible. Et cette femme, Agnès Osman, voyant ce qu'il est écrit, notamment au livre des Actes, disait : est-ce que ce que ces premiers chrétiens ont vécu est encore pour nous aujourd'hui, ou est-ce que c'était simplement réservé à cette époque-là ? Et elle dit : si c'est encore valable pour nous aujourd'hui, alors je voudrais. Quand tu me baptises de l'Esprit, je voudrais connaître la dimension spirituelle de la vie de l'Esprit. C'est ainsi qu'elle a demandé à Charles Parham de prier en imposant la même main. Elle a été, ce jour-là, baptisée du Saint-Esprit. Encore plus près de nous, le rêve du Pentecôte, en France, certains ne le savent peut-être pas, mais c'est l'occasion de rappeler ce matin que nous avons connu dans notre pays de France un réveil pentecôtiste en 1930. Et chaque fois que j'en parle, je me dis, mais que reste-t-il de ce réveil ? Quid pour nous aujourd'hui ? 1932, c'est une personne. Tout d'abord, une femme est arrivée de la Suisse. Elle s'appelle Evelyne Biolay. Et j'aime rappeler son histoire parce que chaque fois qu'on fait l'historique du mouvement de Pentecôte, on oublie un petit peu que c'est d'abord une femme qui est venue de la Suisse pour ouvrir un restaurant sans alcool. Elle a appelé le ruban bleu. Peut-être en référence à la croix bleue, etc. Donc, parce que François Smith, c'est le relèvement des personnes alcooliques dans les rues du Havre. C'est là qu'elle a voulu travailler. Elle a donc ouvert un restaurant, tout un restaurant sans alcool, dans la ville du Havre, une ville portuaire où il y avait un grand problème d'alcoolisme. Et donc, elle s'est rendue dans cette ville, ouvert son hôtel restaurant, et elle a été dans les rues. Il a fait un travail remarquable, auquel il faut rendre hommage. Mais elle est allée plus loin. Ayant connu cette dimension spirituelle, elle s'est dit qu'il faut absolument que ma maison devienne un centre de vie spirituelle pour toute l'île. Et voilà l'invitation des hommes de Dieu de tous les coins du monde, et notamment ce fameux jour de 1930, Douglas. Même celle qui s'appelle Douglas Scott. Mais la semaine dernière, j'ai rappelé aux utilisateurs de cette salle le bien fondé de ce nom et tout ce qu'il y a derrière le nom de Douglas Scott. Alors, il est temps qu'il ne parlait pas très bien français. Mais dès les premières prédications, les gens étaient suivis de signes, de prodiges, de miracles. Les aveugles venus, les bottes de marchands, les paralysés se sont mis à retrouver l'usage de leur langue et très rapidement le réveil s'est répandu dans la ville du Havre et dans tout le pays de France. Douglas Scott a été invité à gauche, à droite, à Paris, à Marseille, à Lyon, dans les grandes villes et ensuite en ville moyenne et un peu partout le réveil s'est répandu. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de télé et des miracles. Devenu des sujets de conversation numéro un dans la ville du Havre et ailleurs dans d'autres villes. Et très rapidement, il y a eu beaucoup de conversions du baptême du Saint-Esprit, et c'est ainsi que le mouvement de Pentecôte est né en 1930. Et après plus d'un siècle d'existence, le mouvement pentecôtiste est la branche du christianisme mondial qui grandit le plus. Qu'en est-il de moi aujourd'hui? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il maintenant, c'est en 78, un homme de Dieu remarquable, Jean Pichot. Il était à la tête d'une très grande église à Séoul. Et il nous disait à cette époque-là, les pasteurs des assemblées de Dieu, les pentecôtistes, étaient retrouvés ici en congrès à Strasbourg, en convention nationale. Et il portait cette vérité, il nous disait, sans relation intime avec le Saint-Esprit, il ne peut exister de vie spirituelle. Sont dans l'Église de notre temps, peut-être au siècle dernier, hein, mais je crois que c'est tout autant valable aujourd'hui, sont dans l'Église de notre temps a besoin, c'est de découvrir et entretenir une fervente relation avec la personne du Saint-Esprit. Je crois qu'il a raison. Alors, comment entretenir une relation avec le Saint-Esprit? Quelques pistes, rapidement, pour la prière. Tout simplement, la prière. Comme le sous-mal, il y a la prière. Elle est cherchée dans la parole et elle l'a obtenue. La Bible dit dans Luc 11, 13, « Cherchez en vous trouver, frappez, on vous oubliera, demandez et vous recevrez. » Et le texte est en rapport avec le Saint-Esprit. C'est intéressant. La prière, demander, être baptisé du Saint-Esprit ou être renouvelé dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'expression qui revient le plus souvent dans le livre des Actes, du fait que les disciples étaient baptisés, c'est aussi qu'ils étaient renouvelés, remplis de nouveau. Et ce fait maintenant de croire que j'ai été rempli une fois pour toutes. On mange bien tous les jours, n'est-ce pas? On frappe de la même manière, il faut entretenir sa relation avec le Saint-Esprit. La prière. Et puis, la vie avec le Saint-Esprit, c'est une question de soi. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il vient à ses contemporains, Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et là encore, le contexte montre qu'il parle bel et bien du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, alors on dit singulièrement, excusez l'expression, mais ça existe. On dit singulièrement qu'on ne peut pas faire boire un âme qui n'a pas de soif. Et Dieu ne va jamais le forcer. On se souvient de cette première réunion qui a eu lieu ici à Strasbourg, nous étions trop jeunes, on ne connaissait pas encore le mouvement de Pentecôte, on ne connaissait pas les assemblées de Dieu. Et avec un groupe de jeunes en ville de notre baptême de Lorraine, on avait entendu parler d'un grand action et il y aurait une réunion avec un certain type de groupe. Je ne sais pas si les anciens parmi nous vous en souvenez. Thomas Robin, Suzanne, tu t'en souviens? Il s'est médié dans l'église protestante à la Bastion. Et nous, on en était à nos jeunes, on était le premier rang de vos soeurs. Comment va-t-on baptiser du Saint-Esprit? Et il nous disait, Thomas Robin, un gallois aussi avec son accent, il nous disait le Saint-Esprit. De l'action médicale, c'est-à-dire une vie qui va passer à ce qu'elle avec une délicatesse, oui, parce qu'il connaît chacun d'entre nous, il sait comment intervenir, il sait comment le parler, il ne va jamais le brusquer, il ne va jamais le forcer la main, mais il est équilibré et il nous respecte. Qu'est-ce qu'il faut aussi, la foi, la confiance? Mes enfants étaient petits, j'accompagnais mes enfants avec leur classe respective. J'avais fait un examen avec l'éducation nationale pour être habilité à apprendre à manger. Peut-être qu'il y a des parents qui participent aussi à ces sorties de classe. Et ensuite, j'avais des non-majeurs qui m'occupaient de ces petits groupes. Et le directeur d'école prenait déjà les nageurs et le maître-nageur prenait ceux qui étaient déjà chevronnés. Moi, je prenais les non-nageurs. Et la chose la plus difficile à faire comprendre à ces élèves, c'est qu'ils flottaient. Une fois que j'avais réussi à leur faire comprendre qu'ils flottaient, que l'eau qui était l'élément qu'ils portaient pouvait les porter sans effort, ils avaient plein de confiance, ils avaient plein de confiance, ils s'abandonnaient à l'eau, puis ils partaient barboter. J'ai du mal à les rattraper, ils étaient dans le grand bassin. Et j'ai le sentiment que pour le baptême du Saint-Esprit, pour être renouvelé dans le Saint-Esprit, Jésus a dit, si vous demandez du pain à votre Père céleste, il ne va pas vous donner un serpent. Il va vous donner du pain. Notre Père céleste, la confiance, s'abandonner, lâcher prise. Je vous prie pour quelqu'un qui voulait être baptisé du Saint-Esprit. Je vous dis bien qu'il est en train de réfléchir. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais j'essaie de voir comment ça peut être une fois que je serai baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Parfois, il y a des gens compliqués. Non, je m'en tire. Demandement, toute simplicité, le Seigneur vous accorde. Et puis l'obéissance aussi. Acte 5 dira, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Pierre dira à ses contemporains, acte chapitre 2, repentez-vous, chacun de vous soit baptisé. Cela signifiera que vous êtes pour donner vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, notamment, je suis interrogé sur certaines manifestations du Saint-Esprit. Et on accorde parfois des bizarreries au Saint-Esprit. On attribue parfois au Saint-Esprit des actions qui ne sont pas de lui. Il existe vraiment des phénomènes de mode. Il existe parfois des comportements dus à la recherche de son personnel, de son sensation forte, de spectaculaire, mais des modes pas clairs. Moi, je pose souvent la question, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Je réponds tout simplement ceci, c'est qu'en accord avec la parole, la Bible dira, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Le fait d'être pentecôtiste ne nous empêche pas de réfléchir et d'exercer notre sens critique. Pas la critique, mais notre sens critique. Vous comprenez bien la différence. Et moi, je me pose la question, est-ce que ce que j'entends, ce que je vois, ce qui m'est présenté, ce que je vis, glorifie Jésus, parce que le Saint-Esprit est lui-même la personne de Jésus. Est-ce que ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends, ces expériences en tant que tel, me rapproche davantage de Jésus? Me rapproche davantage de toi? Est-ce que ce qui m'est rapporté, est-ce que cette expérience dont on me parle, est-ce que cette manifestation porte atteinte à la dignité humaine? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est un Dieu humain. Il ne va jamais porter atteinte à notre dignité humaine. Est-ce que Jésus l'a pratiqué? Est-ce que les disciples l'ont vécu? Et la différence en doctrine, le repère, c'est le niveau des sommets. Est-ce que je suis rendu plus responsable? Ou est-ce que je suis appelé à être simplement passif et observer les choses? Non, la Bible me responsabilise. Est-ce que ce que je vois est conforme à la Bible? La Bible n'est pas pour les excentricités, elle est pour l'équilibre, pour la paix, pour l'harmonie. Elle n'est pas pour le désordre. Et lorsqu'elle parle de certaines choses, elle dira que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. De paix. Et je remarque que certaines manifestations provoquent de la controverse, de la polémique, divisent les chrétiens et n'apportent pas la paix. Donc, j'interroge sur moi. Alors, frères et sœurs, concluons en disant entretenant la vie de l'esprit. Les dons, mais aussi les fruits, l'amour de Dieu dans nos vies, pour être fidèle à notre mission de témoignage personnel, mais de témoignage collectif. Amen. Prions ensemble. Nous te remercions non seulement dans cette journée où nous fêtons de Pentecôte la venue du Saint-Esprit, mais nous te remercions tous les jours de nous avoir accordé un accompagnateur, un accompagnateur, quelqu'un qui remplit nos vies, qui nous donne une vie nouvelle, mais quelqu'un aussi qui est à nos côtés, qui nous accompagne dans notre mission, dans notre notre témoignage au quotidien. Merci pour le Saint-Esprit. Merci de nous permettre de retrouver dans ce que vit le premier chrétien une joie de vivre, une paix, une harmonie, un équilibre, une joie personnelle, mais aussi toute la joie. Peut-être aussi du silence que nous en avons besoin de vivre les dons spirituels, de vivre aussi du miracle qui vient de toi, Seigneur. Nous en avons besoin. Et dans ce sens, nous te prions pour tous ceux qui, parmi nous, autour de nous, sont dans la maladie, dans la détresse intérieure, dans la dépression, dans toutes sortes de choses difficiles à vivre. Nous te prions pour des réponses, s'il te plaît. Prions pour des miracles. Prions pour la manifestation des dons spirituels. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui sont affligés dans leur corps, dans leur vie intérieure, dans leur santé. Prions, Seigneur, que s'exerce les dons spirituels et que les uns et les autres retrouvent leur santé, retrouvent la guérison de leur corps, de leur âme, de leur vie spirituelle. Merci, Seigneur, pour ce défi qui se trouve devant nous. Aide-nous à notre Église de Jésus-Christ à être un témoin de l'espérance vivante pour un monde qui est vraiment troublé, déboussolé, un monde chargé, fatigué, seul. Fais-nous cette grâce de porter la ville de Londres ce matin devant toi. Prions pour l'Angleterre, prions pour Manchester, prions pour ceux qui vivent des problèmes, pour cette famille qui déplore la perte de quelqu'un dans la famille. Nous sommes solidaires de toutes ces situations. Et le peuple de Pentecôte ne peut pas baisser les bras. Au contraire, il prie. Il crie à toi, comme les chrétiens d'autrefois, que nous soyons des témoins d'espérance dans ce monde qui n'est pas moins que d'espérance. S'il te plaît, fais une grâce, Seigneur, et accompagne-nous comme d'un nouveau réveil spirituel. Nous en avons besoin. Et nous sommes loin, Seigneur, de ce que tu as voulu. Et nous le confessons humblement. Nous sommes loin de ce réveil de 1930, de 1906, et de ce que nous avons connu dans l'histoire. Alors, oui, accordez-nous un renouveau, un réveil, une restauration de la vie de l'Esprit. C'est ce que nous te demandons de tout notre cœur. Et si vous êtes d'accord avec moi, le peuple de Dieu dit, Amen.